C'est sans doute la période de l'année la plus joyeuse, la plus belle. Grands et petits, nous sommes attirés par les décorations un peu partout dans nos villes, dans nos églises. Toutes ces lumières étincelantes qui brillent un peu partout, dans les arbres, sur le rebord des fenêtres. Et nous sommes attirés aussi par les belles musiques de Noël, n'est-ce pas, qu'on entend un peu partout. Et tout cela est très beau et très joyeux. Mais en regardant toutes ces belles choses, je me suis posé la question, est-ce que sommes-nous tous conscients des bénédictions de Noël? Sommes-nous tous conscients de ce que Noël veut vraiment dire, ce que Noël nous apporte, ce que Noël apporte à la terre tout entière, à l'humanité? Parce qu'une chose, c'est le décor, la beauté du décor, n'est-ce pas? L'autre chose, c'est la réalité qu'il représente. Et la réalité, c'est que le message de Noël nous parle de bénédiction divine. Ce matin, j'aimerais rappeler au moins trois de ces bénédictions. Et la prédication de l'apôtre Pierre que nous trouvons dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, nous permet de voir au moins trois de ces bénédictions. Alors c'est vrai que ce discours, cette prédication de l'apôtre Paul commence au verset 12, mais nous allons lire ce matin du verset 18 jusqu'à la fin de ce chapitre, jusqu'au verset 26. C'est une prédication qu'il prêche, c'est donc la deuxième ou la troisième prédication que Pierre prêche après la Pentecôte. Et à partir du verset 18, il dit ceci: Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir, en vous détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Il a été envoyé pour vous bénir, pour nous bénir. Ce passage confirme que l'apôtre Pierre saisissait en fait toute occasion pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors, si on veut situer ce passage dans son contexte, on voit que ce jour-là, aux alentours de 15 heures, l'apôtre Pierre va au temple avec son collègue, l'apôtre Jean. Et ils vont tous les deux au temple pour la prière du soir. Ils arrivent à la cour du temple, donc à l'entrée du temple, et là, ils trouvent un boiteux de naissance qui leur tend la main, qui est là pour faire la manche. Or, au lieu de lui donner une pièce, le Seigneur a permis à l'apôtre Pierre de guérir cet infirme. Le Seigneur a permis à l'apôtre Pierre de guérir donc l'handicap de cet homme. Et comme cet infirme était très connu des gens qui venaient au temple, car il était placé chaque jour, tous les jours, au même endroit pour mendier, ceux qui le connaissaient, le voyant marcher, le voyant sauter et louer Dieu, étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Mais que s'est-il passé dans la vie de cet homme? C'était un infirme, un boiteux. Et curiosité oblige, ils ont accouru se rassembler autour de Pierre et de Jean. Il voulait comprendre ce miracle. Et c'est là que l'apôtre Pierre saisit l'occasion pour leur annoncer Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, grâce auquel le miracle a pu être accompli. Il explique donc à cette foule autour de lui que ce n'était pas à cause de leur puissance à eux, à Pierre et à Jean, que la guérison de cet homme avait pu se faire, mais grâce à celle de Jésus de Nazareth, au nom duquel l'handicapé a pu être guéri. Dans un premier temps, donc, l'apôtre Pierre fixe l'attention, le regard de ces gens-là sur Jésus de Nazareth, car c'est Jésus qu'il veut prêcher. C'est la bonne nouvelle concernant Jésus qu'il veut annoncer. Ensuite, Pierre appelle à ses auditeurs, dans un ton ferme mais affectueux, le rôle répréhensible que cette foule avait joué, n'est-ce pas, par ignorance, dans la mort de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ. Pilate avait voulu relâcher Jésus, mais ils avaient préféré qu'il soit crucifié et qu'un criminel, Barabbas, soit libéré. Or, Pierre leur dit que Dieu a ressuscité ce Jésus-Christ qu'ils ont crucifié. Il l'a ressuscité parce que ce Jésus est le prince de la vie. Et que lui et Jean étaient témoins de cet événement formidable. Il leur fait savoir que c'est par le nom de ce Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité, que ce miracle a pu avoir lieu. Comme il l'a fait le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre affirme à nouveau que malgré l'énormité de leurs crimes, malgré cet acte terrible qu'ils avaient commis envers le Christ, la mort de Jésus était finalement dans le plan de Dieu. Il est mort sur la croix parce que Dieu a permis qu'il soit ainsi. Sa mort et ses souffrances avaient été prophétisées, c'est ce que l'apôtre Pierre leur dit. Cela n'enlève rien à leur culpabilité, mais cela suggère au moins une espérance pour ce peuple-là, pour ces gens-là, et une possibilité de pardon parce qu'ils ont agi par ignorance. Il leur dit aussi que Dieu était prêt à traiter leur crime au Dieu comme un péché, mais un péché commis par ignorance, ou pour citer le message de dimanche dernier, comme un homicide involontaire pour lequel il y a la ressource des villes de refuge, n'est-ce pas? Et non pas comme un meurtre. C'était une réponse directe à la prière du Seigneur sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Par leur acte coupable, Dieu avait accompli son propos en relation avec les souffrances de Jésus-Christ. Aussi, y avait-il encore une offre de grâce, de pardon pour ces personnes qui ont tout fait pour que le Christ soit crucifié. Et l'apôtre Pierre leur annonce cette grâce et cette offre. Il leur dit que tout dépendait finalement de leur repentance et de leur conversion. Les deux conditions à remplir pour avoir ses péchés pardonnés et pour être sauvé. Et chose intéressante, il va à nouveau appuyer son message sur des passages des Écritures de l'Ancien Testament. C'est vrai que ce message est rempli de références de l'Ancien Testament, parfois difficiles à comprendre par ceux qui ne connaissent pas bien les textes de l'Ancien Testament, mais c'est à son habitude ce qu'il fait. Il appuie toujours son message sur les Écritures saintes et sur des textes qui se réfèrent à ce Jésus de Nazareth. Et à partir du verset 21, il va expliquer que Dieu a fait venir Jésus-Christ dans le monde conformément à ses promesses. Et il l'a fait à un moment particulier de l'histoire de l'humanité pour bénir l'humanité. Et c'est ça qui est intéressant dans ce message. Il l'a fait pour bénir l'humanité, pour nous bénir, vous et moi. Pour bénir premièrement le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, le peuple choisi duquel est issu Jésus-Christ, mais aussi pour bénir la terre tout entière. Et l'apôtre Pierre rappelle donc à ses compatriotes que Dieu avait fait la promesse autrefois à travers les prophètes, à travers Moïse, à travers Abraham, Isaac et Jacob, de bénir toutes les familles de la terre. Déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, nous lisons ce que Dieu avait dit à Abraham. « Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et l'apôtre Pierre dit finalement à ses frères juifs que le temps de l'accomplissement de cette promesse et des promesses, de l'ensemble des promesses divines de l'Ancien Testament était là sous leurs yeux. La venue de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ était l'accomplissement des promesses faites depuis le début par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cette idée du moment propice par Dieu pour envoyer son Fils dans le monde, nous la voyons dans d'autres textes de la Bible. Par exemple, l'apôtre Paul le dit aussi dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, je cite, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Lorsque les temps ont été accomplis, les temps de Dieu. L'apôtre Pierre affirme dans son message que tous les prophètes, depuis Samuel, et il cite le prophète Samuel, non pas parce qu'il était le premier, mais parce que c'était à partir de Samuel qu'il y a eu une école de prophètes et que le prophétisme a commencé à se développer au sein du peuple d'Israël. Et il dit que depuis Samuel, tous les prophètes ont parlé du Christ, ont prêché la venue du Christ. Pour l'apôtre Pierre, Jésus-Christ est le thème des Écritures. Il les exhorte donc à être attachés à l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, avec eux. C'est en Jésus-Christ qu'ils devaient trouver l'accomplissement de ces promesses qui ont été faites à leur Père. Ils en bénéficiaient en se laissant détourner donc du péché, des mauvaises choses. Ils en bénéficiaient maintenant par l'annonce de l'Évangile. Voilà donc le discours de Pierre ce jour-là, en gros. Ce discours, frères et sœurs, me permet de relever, donc de faire ressortir trois de ces bénédictions que Dieu nous accorde par Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Et très rapidement, je vais les mentionner. D'abord, la venue de Jésus-Christ dans le monde prouve finalement que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. La venue de Jésus-Christ parmi nous est donc une grande bénédiction parce qu'elle prouve la fidélité de Dieu vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de l'humanité tout entière. Sa parole, sa venue confirme la parole de Dieu qui est digne donc de confiance. Nous pouvons considérer l'Ancien Testament comme la préparation de la venue de Jésus-Christ. Le récit de tout ce que Dieu a dit et fait pendant des siècles pour préparer la venue de Jésus-Christ dans le monde. Lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose, cela veut dire qu'il va effectivement le faire. Ce n'est pas des promesses en l'air. Et c'est pour cela que, pour mettre en évidence cela, l'apôtre Pierre va rappeler certaines de ces promesses de l'Ancien Testament, promesses que Dieu avait faites aux ancêtres du peuple d'Israël. Au verset 22, il dit que Dieu avait révélé à Moïse la venue d'un prophète comme lui. Au verset 24, il dit que tous les prophètes, puis Samuel, ont tous, les uns après les autres, annoncé le jour où Jésus-Christ viendrait sur la terre. Au verset 25, il rappelle la promesse faite à Abraham. En fait, ce qu'il souligne ici, c'est que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a confirmé par sa venue, par sa présence dans le monde, la véracité de toutes ces promesses faites par Dieu. Il est la preuve que Dieu tient parole et qu'il est entièrement digne de confiance. Les autres apôtres affirment tous la même chose. Et je pense par exemple à l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui rappelle dans Romains chapitre 15 ceci, « Je vous l'affirme, le Christ est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres et montrer ainsi que Dieu est fidèle. » Voilà ce que l'apôtre Paul dit. « Et montrer ainsi que Dieu est fidèle. » Jésus est venu pour révéler la vérité au peuple juif, n'est-ce pas, le peuple de l'Alliance, et pour leur montrer qu'il tient ses promesses. On pourrait donc dire que Noël signifie que Dieu est fidèle à ses promesses. Et ça, c'est une bénédiction formidable. C'est une bonne chose de le rappeler, de le garder dans nos cœurs. Dieu est fidèle à ses promesses, et ce qu'il dit, il accomplit. Et nous pouvons être sûrs que toutes les promesses de la parole de Dieu vont s'accomplir, comme celles relatives à la naissance et à la venue de Jésus-Christ. Noël signifie que Dieu est digne de confiance. Nous pouvons donc, chacun de nous, placer notre confiance en Dieu pour toutes choses, parce que Dieu est fidèle. Lorsque nous oublions que Dieu est fidèle et digne de confiance, nous sommes perdus. Nous ressemblons à ces bateaux, n'est-ce pas, qui perdent le gouvernail et qui sont dirigés par les vents et par les vagues et qui risquent de s'échouer n'importe où. La fidélité de Dieu est une grande bénédiction à laquelle nous devons nous attacher. Et je dirais bénédiction que nous devons même transmettre, comme l'apôtre Pierre l'a fait ce jour-là, le transmettre à nos familles, le transmettre à nos enfants, le transmettre à nos amis, à nos voisins, nos collègues. Message à transmettre un peu partout. Voilà donc la première bénédiction que Dieu nous accorde et que nous devons, je dirais, recevoir comme un cadeau de Noël. La deuxième bénédiction concernant la venue de Jésus-Christ, c'est qu'il vient en tant que prophète comme Moïse, nous dit l'apôtre Pierre. Au verset 22, il dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Il cite donc Moïse. Ça veut dire qu'il sera un membre du peuple. Et Jésus est ce prophète dont a parlé Moïse. Jésus accomplit cette promesse par sa venue. Jean-Baptiste disait dans Jean chapitre 1, verset 17, que Dieu a donné, je cite, « Dieu a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi et la grâce sont donc les deux aspects de la nature divine, n'est-ce pas, que Moïse a mis en relief et que Dieu utilise pour traiter avec l'homme. Dieu est un Dieu juste, n'est-ce pas? Mais si Moïse a mis l'accent sur la justice divine, sur la loi et la justice, Jésus-Christ est venu mettre l'accent sur la grâce, sur l'amour, sur le pardon divin, n'est-ce pas? Et les deux choses vont ensemble. On ne peut pas parler de la justice de Dieu sans parler de son amour. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu en oubliant sa justice. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ a payé le prix suprême à la croix, à cause de la justice divine, parce que le péché de l'humanité, il fallait qu'il soit payé. Il fallait qu'il soit payé devant la justice de Dieu. Donc, ce Dieu juste et saint est aussi un Dieu d'amour et de grâce, un Dieu qui pardonne. Et Jésus-Christ est la preuve de cet amour divin. Il est la preuve de cet amour. L'apôtre Paul disait, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. » Avec la venue de Jésus-Christ, les gens ne pouvaient connaître Dieu que partiellement. Ils pouvaient connaître certaines choses concernant Dieu, mais depuis que Jésus-Christ est venu, nous avons la possibilité de connaître, en tout cas l'essentiel, n'est-ce pas, beaucoup plus, l'essentiel de ce que Dieu est, la justice, l'amour divin, en tout cas, vis-à-vis de nous. Et là, je pourrais citer quelques passages que nous trouvons dans la Bible. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Celui qui voit Jésus tel qu'il est, voit Dieu le Père. Voilà des affirmations que nous trouvons dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est effectivement la plus grande révélation de Dieu. Quelle bénédiction de connaître Jésus-Christ. Si Dieu est fidèle et si Dieu est le fondement de toute vérité, alors nous avions besoin, n'est-ce pas, que quelqu'un vienne parmi nous nous révéler la vérité de Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne pourrions pas connaître ce Dieu et nous ne saurions pas comment nous approcher de lui. Jésus a affirmé être le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit que personne ne viendra au Père que par lui. Il est vraiment celui qui nous conduit au ciel. Plutôt que de se révéler à nous sur des tablettes de pierre, comme il a fait à l'époque de Moïse, Dieu se révèle à nous et il révèle sa vérité en une personne, Jésus-Christ. Plus nous connaissons Jésus, plus nous connaîtrons sa vérité, plus nous connaîtrons sa volonté. Alors je me suis dit en méditant ce passage que si chaque manière de vivre pouvait finalement nous conduire au ciel, alors nous n'aurions pas eu besoin d'un prophète comme Moïse pour nous indiquer, n'est-ce pas, comment mener une vie correcte dans ce monde vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain. Nous n'aurions pas besoin non plus de Jésus-Christ pour nous montrer le chemin, puisque tous les chemins mènent au paradis, comme on entend parfois, n'est-ce pas? La Bible dit que certains chemins nous mènent à la perdition, à la condamnation éternelle. Et la Bible parle du chemin large, n'est-ce pas, sur lequel beaucoup de nos contemporains se trouvent aujourd'hui. Ce chemin large mène à la condamnation. C'est une bénédiction de savoir que Dieu est digne de confiance, qu'il nous a envoyé un nouveau Moïse, Jésus-Christ, nous révéler le chemin, la vérité de Dieu et nous conduire à la terre promise, à la vie éternelle, au salut en Jésus-Christ. Voilà notre cadeau de Dieu. La troisième et dernière bénédiction que j'aimerais mentionner ce matin, on la voit au verset 26, c'est que la venue de Jésus-Christ nous détourne chacun d'entre nous de nos mauvaises actions. Et ça, c'est une bénédiction formidable, n'est-ce pas? Nous avons entendu dimanche dernier que nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Et je crois que c'est une bénédiction de savoir que nous avons quelqu'un qui peut nous aider à nous détourner des mauvaises actions, à nous détourner de ce qui est mauvais vis-à-vis de Dieu. Et ce qu'il dit ici renvoie tout particulièrement à la figure encore de l'Ancien Testament, du serviteur de l'Éternel. Cette image décrite par le prophète Ésaïe dans son livre, n'est-ce pas, le serviteur qui, devant l'infidélité du peuple, est suscité pour l'appeler à la conversion, pour l'appeler à se tourner vers Dieu. Serviteur qui est aussi rejeté, nous dit le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, rejeté, qui souffre et qui va jusqu'à la mort pour accomplir sa mission par amour pour nous. Or, l'apôtre Pierre dit à ceux qui l'entendent que Dieu a envoyé son serviteur, Jésus-Christ, pour les bénir en les détournant chacun de ses iniquités. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Alors, je dirais que finalement, la foi est l'instrument par lequel Dieu peut nous purifier, le moyen par lequel il nous permet de nous tourner de mauvaises actions avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 15, verset 9, nous lisons que Dieu, je cite, il a purifié le cœur, il a purifié leur cœur, il parle des gentils à l'époque, des païens comme on dit souvent, il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Ou encore au chapitre 26, verset 18, afin qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés. La foi est l'instrument que Dieu utilise pour nous purifier et pour nous détourner de nos mauvaises actions. Ainsi, la troisième bénédiction donc, que Dieu nous offre, c'est l'aide continue de Jésus-Christ, si nous croyons, pour obtenir victoire sur nos faiblesses et nous détourner du mal. Si Noël signifie que Dieu est digne de confiance, parce qu'il est fidèle. Si Noël signifie que, qu'un prophète comme Moïse est venu nous montrer le chemin, la vérité, la vie, Noël signifie aussi que ce nouveau Moïse, Jésus-Christ, ne se contente pas de nous montrer le chemin, mais il est là, encore selon la promesse de la parole de Dieu, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là tous les jours pour nous aider à nous détourner des mauvaises choses. Il ne s'est pas retiré pour nous laisser seuls, nous débattre avec nos mauvais penchants, n'est-ce pas, notre nature pécheresse. Il est là tous les jours avec nous pour nous aider à marcher sur le bon chemin, le chemin qui conduit à la vie. Nous avons besoin, frères et sœurs, de ces deux éléments, n'est-ce pas, avoir nos péchés pardonnés, savoir que nos péchés sont pardonnés, effacés, et je pourrais même dire que nos péchés soient judiciairement pardonnés. L'apôtre Paul utilise souvent le mot justifié dans la Bible, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ l'a fait, il les a effacés. Mais nous avons aussi besoin d'être aidés à être détournés donc de nos méchancetés, afin que celles-ci perdent de leur puissance dans nos vies, sur nous. Noël signifie que Dieu est digne de confiance. Noël signifie que Jésus est venu dans ce monde révéler la vérité de Dieu. Noël signifie que Jésus est venu pour nous aider à vivre notre vie chrétienne au quotidien avec lui. Et j'aimerais que chacun ce matin puisse sortir de cette salle persuadé de ces trois grandes bénédictions que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. Vous aussi, chacun de vous ici, peut faire partie de ces familles dont Dieu a promis de bénir, de ces familles que Dieu veut, ces familles de la terre que l'apôtre Pierre mentionne ici et que Dieu veut bénir. La promesse de bénédiction est pour chacun d'entre nous. Recevons ces bénédictions comme un cadeau de Dieu, comme un cadeau de Noël. Pendant cette période Noël où on distribue des cadeaux et on reçoit des cadeaux, recevons ces trois bénédictions comme un cadeau de Dieu, comme un cadeau de la part de Dieu, un cadeau de Noël que Jésus est venu nous donner.